La première.
Oui.
Oui.
22h, 23h. Par où dire ?
Pascal Tison.
Dis-moi. Par où dire ?
Par où dire ?
Souhaitez la bienvenue au musée L. Donc le musée universitaire de Louvain, c'est la première exposition temporaire que nous avons. Donc nous sommes très très contents en fait d'accueillir cette exposition singulière qui est vraiment ancrée dans des questionnements sociétals très actuels. Donc pour nous, ça dit quelque chose de notre ADN en fait de musée universitaire, c'est-à-dire un musée qui est en prise avec les enjeux et les questionnements de la société actuelle et contemporaine, qui mêle aussi art et science, ça c'est vraiment quelque chose qui est présent dans nos collections permanentes et qui rejaillit bien sûr dans l'exposition temporaire, donc écriture numérique.
Au musée de Louvain-la-Neuve, écriture numérique jusqu'au 13 mai, avec Anne Kéringent, Frédéric Blondiot, Philippe Franck.
Ben oui, en effet, comme tu l'as rappelé, je pense que cette manifestation, c'est une série de conjonctions, de partenariats et qui se sont, je pense, très bien emboîtés assez naturellement entre l'année des mondes numériques, entre Transculture, Centre des cultures numériques et sonores et la volonté du musée d'avoir une première exposition temporaire qui marquait un peu la différence, je pense, par rapport à une singularité qu'on voit déjà à l'œuvre dans la collection du musée et dans ses choix.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Des places de Belgique.
Les Kaliski.
Mon œuvre.
Allez, on s'occupe.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Aleschinski. Authentique, me tento, me tento, me tento, stélé.
Le monde invisible.
Écriture numérique qui, comme vous le savez, mais mon collègue du CL Culture vous en parlera, s'inscrit dans la thématique choisie par l'UCL.
Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que depuis plus de 10 ans, l'UCL Culture, le service culturel de l'UCL, accueille et encadre un artiste en résidence, à chaque fois dans une discipline différente. Et cette année-ci, ça semblait tomber sous le sens. On a vraiment souhaité avoir un artiste actif dans le domaine des arts numériques.
Au musée de Louvain-la-Neuve, écriture numérique jusqu'au 13 mai, avec Anne Kéringent, Frédéric Blondiot, Philippe Franck, Nicolas Maigret, à décrire ce qu'on voit, ce qu'on entend.
Oui, bien sûr. Donc ce qu'on voit, c'est en fait un algorithme, un bot, on appelle ça, qui est en train de surveiller les tendances en fait, sur les réseaux sociaux. Et il analyse des mots-clés qui sont en train d'être d'émerger ou d'être beaucoup utilisés en ce moment. Et à partir de ces mots-clés, il développe en fait des concepts artistiques d'anticipation, on va dire. Donc il produit de manière automatisée des concepts artistiques en permanence à partir d'un travail de veille, en fait, des sujets qui sont en train d'émerger ou de questionner.
Nicolas Maigret est un artiste français qui présente trois installations dans cette exposition et qui travaille avec nos étudiants, donc une vingtaine d'étudiants issus de toutes les facultés, avec des expériences différentes. Il y a des jeunes étudiants, des étudiants plus expérimentés qui travaillent avec lui au sein d'un séminaire artiste en résidence.
Donc là, on voit qu'il a identifié des choses qui viennent des magazines comme Guardian, comme Vice et Libération, et il nous parle d'une tactique portable pour réagir aux effets des lanceurs d'alerte. Donc voilà, il produit des espèces de concepts bricolés à partir des news en direct. On peut regarder le suivant là, qui arrive.
Nicolas se propose d'explorer avec les étudiants ce qu'il appelle les boîtes noires du numérique.
Explorer le monde de Google Analytics. Il propose comme ça des espèces de suggestions de domaines de recherche et de domaines de développement, de regard artistique sur le monde contemporain, en fin de compte.
Est-ce une marionnette dont vous tirez les ficelles ?
Mais en fait, ce qu'on voulait faire plutôt, c'est trouver une manière de court-circuiter ce qui nous semblait être un phénomène d'emballement ou en tout cas un effet de l'hyperconnexion. Qui génèrent, il nous semble, des phénomènes d'emballement et de production d'œuvres et d'idées qui sont très similaires aux quatre coins du monde dans une même temporalité. Et il nous semblait que dans une certaine mesure, c'était quelque chose de quasiment programmable. ou disons pour le caricaturer, on pourrait quasiment le programmer et le simplifier au niveau d'un programme. Et donc c'est ce qu'on a fait avec ce projet qui s'appelle Predictive Artbot, donc un robot de prédiction artistique. Et voilà, quelque part, ça vient singer ou pousser jusqu'à l'absurde ce système d'emballement lié à l'hyperconnexion et à l'addiction aux réseaux sociaux, etc.
Voir comment fonctionnent les algorithmes dans nos moteurs de recherche, par exemple, voir comment on peut contourner, détourner les choses. Donc on parle ici de activisme, on en parlera également tout à l'heure avec Transculture. On parle aussi du mouvement d'innovation qui était créé par Nicolas Maigret et sa complice Maria Roskowska.
Le symbole d'aujourd'hui, c'est un téléphone portable et aussi c'est un symbole de ce phénomène Shanghai culturel, Shanghai chinois. Le téléphone, c'est comme une image de cette culture-là. Et aussi, par rapport à notre standardisation occidentale des formes de technologie, on voulait montrer d'autres possibles aussi, d'autres formes, d'autres manières de fabriquer les technologies, d'autres rapports aux technologies, d'autres pratiques qui se développent autour des technologies. Donc.
Une intervention avec seulement la pire partie des entreprises multinationales.
Alors les expositions temporaires pour un musée, eh bien elles sont intéressantes parce que c'est un format qui nous permet beaucoup plus de liberté. On peut aller vers des questions qu'on se pose, on peut aller vers des genres qui sont encore à expérimenter. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça se passe dans un musée. Et ça veut dire qu'ici, on a un sacré coup de projecteur dans le rétroviseur qui est possible.
Au musée de Louvain-la-Neuve, écriture numérique jusqu'au 13 mai. Avec Anne Kéringent, Frédéric Blondiot, Philippe Franck, Nicolas Maigret, Maria Rokowska, Elisa de Jacquier.
Ce Predictive Artbot, en fait, c'est finalement la mise au point de toute une série d'algorithmes qui vont proposer à des artistes des modèles, des sources d'inspiration pour une création artistique. Donc ils vont reprendre toute une série d'informations qui n'ont pas encore été traitées par d'autres artistes. Ils vont les mettre ensemble et ils vont les proposer. Donc là, on est vraiment dans l'intelligence artificielle et avec toutes les dérives que cela peut amener, évidemment.
Et je pensais à vous écouter aussi ce qu'on sait pour le monde universitaire, le monde académique, où les publications sont mises sur des sites internet et les fabrique, ces publications même. Et au plus on en a, au plus on a de palmes.
Absolument,
ça vous parle tout ça.
Oui, bien sûr. Et ici à l'université, on a pas mal de chercheurs qui sont très intéressés aussi par tout ça.
Pour nous aussi, ça s'inscrivait dans le cadre d'une biennale qui s'appelle Transnumérique, qui est une biennale des cultures numériques et des écritures numériques. Et donc, cette exposition qu'on a appelée ensemble Écriture numérique va bien au-delà, évidemment, de simplement, c'est pas l'écriture littéraire, c'est les nouvelles formes, c'est les nouvelles pratiques, c'est les nouvelles formes de détournement aussi, critiques la plupart du temps, poétiques. Décalé, engagé, et qui regroupe finalement deux volets. Le cabinet de curiosité numérique, et je laisserai Jacques Urbanska, qui s'est majoritairement occupé de la sélection pour Transculture, vous en parler tout à l'heure avec une quinzaine d'œuvres et une vingtaine d'artistes. Et également l'autre volet, disnovation.org, avec le collectif animé par Nicolas Maigret et sa compagne Maria qui vont nous rejoindre tout à l'heure.
Quand vous dites emballement, c'est qu'il y a une sorte d'accélération qui se passe ?
Plutôt peut-être un phénomène de caisse de résonance, où plus un sujet semble important, plus on en reparle et plus ça donne l'impression qu'il n'y a que ça qui compte à un moment donné dans le temps.
Écriture numérique par Thierry Genicot. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles secteur des arts plastiques.
Et tous les deux se rejoignent finalement, oui, dans une espèce de critique, d'une espèce de techno-libéralisme, en tout cas une forme de techno-critique, si je puis dire, dans un engagement qu'on pourrait dire d'activiste au sens large, c'est-à-dire cette contraction entre hacker et activiste, et où le mot art est aussi présent, et cette trilogie nous intéresse vraiment. Dans le cadre de Transculture, ça nous intéressait aussi ce rapport art-science que nous développons par ailleurs, avec d'autres partenaires européens et internationaux. Donc c'est une expo tout à fait internationale, j'allais dire, qui se veut entre poétique et critique, je pense. L'idée du cabinet de curiosité, on le rappellera tout à l'heure, nous semblait un fil rouge aussi, étant donné qu'il y a un cabinet de curiosité historique ici, qui est très, très bien réalisé d'ailleurs, mais que ici, cette série d'œuvres assez insolites qui s'inscrivent, on pourrait le dire quelque part, dans l'idée du cabinet de curiosité né au 15e ou 16e, avec ces catégories qu'on connaît bien, naturalia, artificiale, exotica, on pourrait dire cyber-exotica maintenant, ou scientifica. Ces artistes, finalement, on les a regroupés un peu sous cette appellation assez libre, qui nous semblait en plus faire écho à ce qui avait déjà ici été tenté partiellement, et à un esprit général très libertaire et qui refuse les étiquettes de ces artistes numériques ou post-numériques, c'est-à-dire qui ont intégré les cultures numériques mais qui font finalement l'art contemporain avec les outils d'aujourd'hui.
Frédéric Blontiot.
Voilà, pour nous c'est une occasion formidable, UCL Culture, l'université, d'accueillir cette première exposition, comme le disait Anne, première exposition temporaire d'envergure ici au musée L, exposition contemporaine qui interroge vraiment notre monde d'aujourd'hui.
Grâce à l'électricité, à l'eau, au son, oui, tout à fait.
Mais sans électricité, pas d'art numérique.
Ah, complètement, oui, c'est sûr, n'existerait pas, c'est certain. Oui, oui.
Indirectement, on pourrait dire que c'est l'effet des utilisateurs qui crée ces nouvelles et ces concepts, puisqu'en fait, ce programme est tout simplement connecté à un flux Twitter. Donc ensuite, c'est ce qui est reposté, ce qui est écrit, ce qui est commenté, qui devient la masse analysée. Et à partir de ça, il tire en fait des motifs, des tendances, des effets de masse, etc.
Il y a un mot sur l'artiste Maigret que j'ai interviewé.
Nicolas Maigret, oui, tout à fait.
C'est clairement une œuvre en réseau et à propos du réseau et des phénomènes de réseau.
Il se soucie vraiment qu'on mette l'accent sur son collectif. Donc c'est lui-même et sa complice Maria Rovkovska.
Hanzai Ecology, donc c'est cette salle-là. Et dans l'autre salle, il y a Blacklist et Predictive Artbot. Donc il y a trois projets et les trois sont faits avec le collectif d'innovation d'Otog. Donc c'est moi, c'est Nicolas Maigret et différentes personnes selon les projets, les programmeurs, les anthropologues, les designers. On travaille avec différentes personnes.
Il y a effectivement une dimension au départ qui était assez critique, avec une pointe peut-être d'ironie en fait sur le mécanisme de cette hyperconnexion, mais ce qui en sort en fait, ce que produit ce robot dépasse le simple statut de critique ou d'ironie, puisqu'en fait il a un vrai potentiel, disons, de stimulation intellectuelle ou stimulation de l'imaginaire, on va dire.
Donc, par exemple, ce projet-là, il a été fait avec un anthropologue, chercheur spécialiste de Chine, Clément Reynaud, et Hongyuan Ku, qui est un designer chinois. Et on a travaillé ensemble sur une collection de téléphones faits en Chine, qui s'appelait Shanghai Phone. Alors, c'est des téléphones qui à la base sont des copies de grosses marques qui sont délocalisées en Chine pour fabriquer leurs téléphones, et progressivement ils ont muté et ils ont commencé à faire leurs propres marques, leurs propres mutations, variations et adaptations locales de ces produits-là.
Et alors il y a d'autres personnes qui se greffent aussi dans, j'imagine, la programmation, la réalisation des installations 3D, etc. Mais dirais que le noyau dur, c'est E2.
Et face à ça, une bibliothèque.
C'est une forme d'encyclopédie, mais une encyclopédie particulière, puisque c'est en gros un listing des adresses, des URL, donc les adresses Internet, qui sont bloquées aux quatre coins du monde pour différentes raisons. Donc là, devant nous, on a 13 tomes de chacun 666 pages. Et donc, c'est plus de 2 millions d'adresses qui ont été bloquées. Et donc, c'est des services auxquels on souscrive les administrateurs réseaux de villes, d'aéroports, de petits États, d'universités, etc. Pour simplifier le processus de filtrage de ce à quoi on peut ou non accéder. Donc c'est rangé par catégorie et les administrateurs réseau ou les entités responsables du filtrage choisissent les catégories qu'ils souhaitent filtrer ou non dans leur enceinte. Donc ça peut être des choses comme les logiciels malveillants, la pornographie, tout ce qui est virus, tout ce qui est jeu en ligne, tout ce qui est drogue et pharmacie. Mais ça peut même aller jusqu'à des sujets comme le féminisme peut être bloqué. C'est vraiment en fonction des différents clients qui ont dû commander des types de sujets à bloquer.
Comme un certain tableau de Courbet bloqué par Facebook.
Par exemple, ça peut résonner avec ça, effectivement.
Et de l'autre côté, c'est la Chine.
De l'autre côté, ce qu'on montre, c'est une recherche qu'on a développée depuis à peu près 4 ans avec Clément Renaud, qui est chercheur anthropologue, et Yuan Q, qui est une designer chinoise. Et on s'est intéressé en fait à la production d'artefacts technologiques dans la zone de Shenzhen, qui est l'endroit où sont fabriqués la plupart en fait des objets technologiques contemporains. Et il se trouve que, en dehors de cette production pour des grandes marques internationales, il y a aussi toute une production alternative qui, elle, s'est développée, s'est ancrée dans une pratique de la copie, de l'hybridation, de l'adaptation, etc. Et dont a émergé plein d'objets très étonnants qui viennent un peu perturber ou remettre en question nos récits sur l'innovation occidentale en venant créer des imaginaires technologiques complètement autres. Donc par exemple avec des objets qui hybrident énormément de fonctions, des téléphones qui viennent combiner par exemple un vidéoprojecteur et téléphone ou taser et téléphone ou rasoir et téléphone. Ou quelquefois tout un ensemble de fonctions et d'options. Et voilà, ça résonne avec des imaginaires technologiques auxquels on n'a pas vraiment accès et qui sont un peu coupés de notre réel quotidien.
J'entendais votre collègue évoquer un haut-parleur qui faisait danser les gens sur les trottoirs à Pékin.
Ben en fait, en Chine, il y a une tradition de danse de rue qui est beaucoup pratiquée par les personnes âgées. Et il se trouve qu'il y a un téléphone, justement, qui a été développé pour ce phénomène de niche. Et donc, un téléphone qui fait lui-même sound system et qui inclut aussi plusieurs gigas de musique populaire chinoise et donc qui est vraiment designé pour ce type d'usage particulier.
Et donc, en fonction voilà, des différentes œuvres, il y a un discours qui varie un petit peu, mais en gros, leur souhait, c'est vraiment une autopsie en fait, de la société actuellement. Elisa de Jacquet.
Vous dites autopsie, et moi j'évoque avec l'artiste la question de la leçon d'anatomie de Rembrandt.
Ah ben voilà, ouais, voilà. On y est, oui, oui, tout à fait, oui, oui.
Il y a un autre téléphone qui a été appelé le Buddhaphone et qui donc a été designé, pensé, pour reproduire tout un ensemble de contextes qui sont propices aux rituels bouddhistes. Donc on y retrouve les différentes figures du Bouddha, différentes salles qui correspondent à différents moments dans les rituels bouddhistes, etc. Tout ça resimulé à l'intérieur d'une interface de téléphone, en fait. « Nous, la manière dont on essaie de s'emparer de ce type de problématique, c'est plutôt pour les découvrir et pour les donner à voir, à débattre, et pour qu'elles viennent créer des formes de glissement, en fait, dans les rapports, quelquefois assez normés, à un imaginaire dominant sur ce que devraient être les technologies ou ce que devrait être une vision technologique du futur. Donc c'est plutôt là où on se place, c'est-à-dire de venir créer ces déplacements, créer ces zones de débat et de questionnement, plutôt qu'apporter des réponses figées ou voilà.
Pour nous, ça s'inscrit aussi dans ce festival Transnumérique, dont la 6e édition est donc pilotée par Transculture, en conjonction avec tous ces partenariats. Se passe à Louvain-la-Neuve et l'exposition est le socle important de ce festival.
Donc, je suis Nicolas Maigret et le nom du collectif avec lequel nous travaillons, c'est disnovation.org. Donc, c'est un collectif qui se préoccupe essentiellement de réfléchir sur la place de l'innovation et de la... quelque part de la propagande de ce discours autour de l'innovation aujourd'hui dans notre société.
Nous sommes au musée L, à Louvain-la-Neuve, à l'université. Vous faites des workshops avec les étudiants. Quelles sont les questions que les étudiants se posent aujourd'hui?
On fait également un séminaire avec les étudiants. Et ce séminaire porte sur l'idée des boîtes noires, donc d'explorer quelles sont les boîtes noires dans notre quotidien, c'est-à-dire... les moments en fait où on se trouve face, où on se trouve en présence de systèmes programmés ou de systèmes technologiques dont on ne peut pas connaître le fonctionnement, où on ne peut pas connaître les logiques internes, on ne peut pas connaître la politique qui est derrière, etc. Et justement avec eux on essaie d'identifier certaines de ces boîtes noires qui leur semblent importantes dans leur quotidien. Et ensuite, de trouver des manières assez simples de les révéler, de les donner à voir, de les donner à débattre. Donc, il y a tout un ensemble de projets qui émergent progressivement pendant l'année.
L'exemple de boîte noire.
Un exemple, il y a un groupe qui commence à travailler sur tout ce que Google enregistre de nos activités, de nos interactions avec nos téléphones. Des questions qu'on pose aux assistants virtuels comme OK Google ou comme les différents assistants des différentes marques aujourd'hui. Et voilà, ils essaient de trouver des manières de venir extraire tout ce matériau pour le mettre à nu et le donner à débattre.
Et que pensent Google et ses assistants de cette démarche? Ils ignorent ce que vous faites?
À ce stade, effectivement, ils ignorent ce qu'on fait. Après, si les résultats des recherches sont diffusés, ce sera peut-être une autre étape où il y aura éventuellement une interaction.
À vous écouter, je pense à la leçon d'anatomie de certains Rembrandt, n'est-ce pas? C'est ça ce que vous faites?
Effectivement, il y a un travail assez proche de l'étude anatomique. Dans le fait de venir observer les organes internes et la machinerie qui est habituellement passée sous silence.
Comme un médecin légiste.
Exactement.
Vous êtes historienne de l'art?
Oui.
Parfois, on pense à Jean Tiguely, vous voyez, qui fait des machines, comme
oui,
ça,
oui,
célibataire. Il n'y a pas un peu de ça avec le numérique aujourd'hui?
Oh oui, je pense inévitablement. Hein. Avec en plus les nouvelles technologies aujourd'hui, ben oui, forcément, il y a cette possibilité d'utiliser ces outils, ces instruments et de un petit peu, oui, faire une critique de notre société, la manière dont on fonctionne, comment les machines interagissent avec nous. Et c'est une question qui est très très actuelle aussi. Hein. On parle des intelligences artificielles d'autant plus. Et donc je pense que c'est d'autant plus un sujet d'actualité actuellement, oui, complètement.
Avec cette idée quand même de bricolage. Hein,
Complètement, et assumé. Hein, un des artistes que l'on a dans la première salle, Alexis Choplin, est un jeune artiste français qui a fait ses études ici dans une école d'art à Mons. Et c'est très brut, donc ce sont des lattis de bois assemblés, vissés, sur lesquels il fixe voilà, des tuyaux, des baffles, des fils électriques, et qui vont interagir. Et, en fait, il s'intéresse vraiment à tout ce qui est ce jeu de la mécanique, de l'influence des fluides, du son, et ça crée une composition assez magique mais c'est vraiment brut, donc c'est tout à fait assumé. C'est pas quelque chose de fini, pas du tout.
Donc il s'inscrit tout à fait dans la tradition de l'art, de l'évolution de l'art.
Il me semble, oui, en tout cas, oui, je pense. Et il y a aussi énormément de poésie aussi dans ces pièces, dans ces installations. Et ça, c'est quelque chose qui est récurrent, évidemment, dans l'art. Il y a une vraie poésie.
Ça veut dire aussi que l'humour est convoqué, le décalage, le détournement, la poésie.
Pensez à une sorte de théâtre de machine célibataire, hein, pour jouer sur Marcel Duchamp. Et...
Tout à fait. On pourrait presque dire ça, si ce n'est que ce sont des marionnettes qui, avec l'aide de l'électricité, mais qui agissent toutes seules et qui interagissent entre elles aussi. Alors on parlait aussi de ce côté un petit peu bricolage tout à l'heure. Voilà, ici on est vraiment clairement devant une œuvre où l'esthétique est plus dans les effets mécaniques qui se font entre le son, les liquides, l'électricité qui va circuler d'un fil à l'autre, etc. Et c'est vraiment, vous parlez de théâtre de marionnettes, voilà, quand on parle de poésie, là je trouve qu'on a finalement une œuvre très brute de décoffrage au premier abord, et en fin de compte, remplie de magie, avec des petits effets lumineux, de l'eau qui finalement, tout en coulant, forme toute une série de zigzags qui s'enchaînent grâce au son et aux vibrations sur lesquelles le tuyau d'eau va se frotter quand on se baffle. Donc voilà, en fait, à chaque fois, le tableau se réécrit et on a une composition qui change, qui varie un petit peu. Là, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et ça, c'est vraiment un très jeune artiste, Alexis Choplin, un Français qui vit et qui travaille ici en Belgique, qui a réalisé cette œuvre. Et donc, c'est vraiment, en plus, une composition faite sur le lieu. Donc, il garde les mêmes principes de montage qu'il fait évoluer au fur et à mesure de ses expositions et de ses installations.
Anne Kéringer.
Des chemins, en fait, qui nous permettent de rentrer dans ces écritures numériques. Alors, comme musée, nous avons intégré des œuvres de l'exposition dans les collections permanentes. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et comme musée, nous sommes un service public et donc nous offrons aussi toute une série de dispositifs, de propositions pour la médiation des publics. Donc des visites guidées, des journées famille, des débats, des conférences... des moments où on peut en discuter devant les œuvres, et ça me paraît tout à fait essentiel, surtout pour l'art contemporain. C'est quelque chose qui n'est pas donné d'emblée, ça demande d'être vraiment accompagné et d'ouvrir en fait une rencontre qui se passe peut-être pas sur un mode habituel d'une visite guidée dite traditionnelle, mais plutôt des échanges, des interactions, des questions, des réponses. Et alors, nous avons un bel outil, puisqu'il y a un petit catalogue qui est donné gratuitement et qui vous permettra de visiter l'exposition. Donc, vraiment, de pouvoir rentrer de manière accompagnée avec de la médiation dans l'exposition.
J'étais en train de me poser la question, Philippe Franck, quels seraient les préhistoriens de l'art numérique ? Et je pensais aux futuristes italiens.
On y revient souvent, finalement, à ces bons vieux futuristes des années 1910, Rousselot, Marinetti, etc., des manifestes, dans le sens, en tout cas, où, en effet... Le fait d'intégrer les machines, la vitesse, la société contemporaine, d'inventer des instruments, y compris des instruments sonores qu'on a bien redécouverts aussi dans notre autre festival City Sonic, il y avait évidemment un élan d'étendre finalement la grammaire de l'art avec d'autres outils, avec d'autres préoccupations très contemporaines, voire du lendemain. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais c'est intéressant de revoir aussi l'histoire de l'art du XXe siècle, en passant, oui, par les futuristes, les dadaïstes. Il y a un esprit dadaïste aussi dans certains artistes du cabinet de QC numérique ici au musée que nous avons choisi.
Il y a aussi, je parlais tout à l'heure de l'art cinétique et de l'art du mouvement, et ceci croisé aussi aux recherches scientifiques de la cybernétique, différentes théories de l'information, jusque des formes d'abstraction géométriques qui sont bien sûr revues avec les outils numériques pour créer d'autres formes. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est pas évidemment que ces artistes prennent cet enseignement stricto sensu, mais comment là aussi le détournent, comment ils en font leur miel pour trouver d'autres formes, d'autres questionnements qui sont toujours en mouvement, parce qu'évidemment ces arts numériques stricto sensu, on peut dire qu'ils ont peut-être maximum 25 ans aujourd'hui. Moi, je me rappelle que le premier festival d'art numérique qu'on a fait en Belgique avec Transculture s'appelait NetDay, c'était en 1998, et qu'à ce moment-là, il fallait encore conscientiser le public à un usage citoyen d'Internet. Voilà le message que nous donnait entre autres la Commission européenne, c'était un festival européen. Ça a bien changé, ces outils sont intégrés, mais quand même, cette conscientisation via une espèce de technocritique, comme on peut dire dans cette expo, et on le voit, et celle de disinnovation.org aussi, me semble encore, peut-être plus que jamais, à l'ordre du jour. Ne pas prendre des outils pour simplement des outils neutres, ils véhiculent une économie, on le voit, on parle de technolibéralisme aussi, d'ultralibéralisme, il y a l'obsolescence programmée, il y a la propagande de l'innovation, toujours acheter le dernier cri, etc., qui est fortement ici critiqué par le collectif disinnovation.org, mais aussi dans certains autres artistes présentés au Muséum, etc. Et donc, on voit bien qu'il y a derrière tout ça un substrat politique, que ces esthétiques et ces pratiques peuvent aussi, heureusement, dénoncer et ne pas être dans une forme de sacralisation de la technologie ou de se faire emporter par ce mouvement d'accélération permanente qui nous fait oublier, finalement, la critique de notre condition numérique ou post-numérique dans notre ici et maintenant. Et c'est ce que nous rappelle, finalement, de manière insolite, singulière, poétique, politique, détournée, distanciée, engagée, etc., ou plus conceptuelle, toutes ces œuvres de ces expos en deux volets d'écriture numérique.
La Biennale transnumérique, le commissariat est assuré par Philippe Franck et Jacques Urbanska, qui sont deux personnes qui travaillent pour l'organisation Transculture, qui met justement en évidence des artistes utilisant ces médiums-là. C'est grâce à Jacques Urbanska, notamment, et Philippe Franck, que Nicolas Maigret est devenu l'artiste en résidence de l'université cette année-ci, puisque la thématique de l'année académique est donc les mondes numériques. Et donc, c'était une opportunité d'installer la Biennale ici, de l'accueillir à Louvain-la-Neuve et de mettre tous ces artistes ensemble, ainsi que le collectif Disinnovation, dont Nicolas est un membre actif.
Sous un vocable très ancien qui remonte à la Renaissance.
Tout à fait.
Et surtout dans les villes flamandes, d'Anvers et de Malines, qui est la question du cabinet de curiosité.
Cabinet de curiosité numérique.
Donc c'est
oui.
De rassembler richesses du monde et les classer pour des amateurs.
Voilà, ou même on peut même parler aussi de curiosité. Et ça, je trouve que le lien, du coup, est intéressant avec notre espace permanent, parce qu'on commence la visite de l'espace permanent avec un cabinet de curiosité. Et on prolonge en quelque sorte cette idée, ce concept-là avec notre première exposition temporaire. Et donc, en effet, on rassemble toute une série d'œuvres. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, l'art numérique n'est pas encore un art forcément très connu du grand public. Et donc, justement, cette idée de cabinet de curiosité et d'amener les visiteurs peu au courant ou peu sensible à cet art-là, à venir découvrir les choses. Je trouve que c'est très intéressant.
Il n'y a pas de numérique sans électricité, n'est-ce pas ?
Oui.
Et je pensais aussi aux travaux d'un certain Pierre Schaeffer, 1945. Mm-hmm. Hein ? Et je pensais aux travaux d'un certain Fred Forrest dans les années 60.
Bien sûr, qu'on a bien connu et qui est toujours vivant, contrairement à Pierre Schaeffer, avec tout le respect qu'on a pour lui, l'inventeur de la musique concrète. Et un laborantin aussi, avec ce traité des objets musicaux de Schaeffer. Le besoin aussi, malgré tout, d'encadrer ces formes une fois qu'elles sont libérées. On retrouve un peu ce mouvement toujours des avant-gardes. On libère et puis après on essaye de refaire un peu une grammaire, un dictionnaire qui peut-être encadre un peu trop. Et Fred Forrest, vous l'avez rappelé, c'est vraiment un des pionniers de ces formes numériques. Mais avant ça, c'était l'art sociologique. C'était un art de la communication détournée. Et je pense que finalement, oui, ce sont les outils numériques, mais ces arts numériques n'ont pour moi d'intérêt que si elles sont à l'intersection de ces pratiques, de ces esthétiques, de ces micro-mouvements, on pourrait dire aujourd'hui, de ces singularités qu'elles ne se laissent pas justement encapsuler dans une espèce d'esthétique techno-numérique où il suffirait que ça soit le dernier cri ou qu'on soit concepteur-programmeur pour être forcément intéressant, parce que ça, c'est récupéré par la société de l'hyperspectacle dans lequel on vit et dans lequel le numérique est bien instrumentalisé, parfois contre son gré, parfois avec son assentiment. Et c'est les grands spectacles qu'on voit, les mappings de ce que j'appelle le papier peint numérique qu'on voit partout dans les villes, avec une grosse fête techno à côté. Je pense que ce n'est pas du tout ça qu'on défend ici dans les transnumériques et dans cette exposition écriture numérique. Et en général, dans le travail de transculture depuis plus de 20 ans, on est plutôt à l'opposé de ça.
Philippe.
Et dire attention, ces outils-là, bien sûr, peuvent ouvrir des mondes numériques fascinants, mais peuvent être aussi tant des ouvroirs que des prisons. Et donc, la société de contrôle dont parlait William Burroughs ou Deleuze après, qui nous semblait presque parano dans la vision science-fictionnelle de Philip K. Dick, par exemple, dans les années 60, aujourd'hui, c'est une évidence. Et ces artistes nous le rappellent aussi, et nous titillent avec ça. Et donc, je pense que c'est plus que jamais utile, nécessaire, d'être dans ces attitudes technocritiques et volontiers aussi dadaïste, voire anarchiste, etc. En tout cas, ils ne se revendiquent pas d'un mouvement en particulier, mais ils se revendiquent en tout cas d'un point de vue distancié et critique avec des technologies qu'ils connaissent suffisamment bien que pour les détourner contre ce qu'on veut nous en faire utiliser, nous en faire croire, finalement, simplement pour qu'on soit des bons petits consommateurs bien dociles ou bien qu'on vote pour parce qu'on a été influencé par X fake news, etc. Et c'est vraiment d'actualité tout ça.
Il y a le magique, il y a le merveilleux, et puis il y a la critique, il y a la mise en question, il y a le questionnement, il y a la dénonciation.
Tout à fait. Et ce n'est pas un phénomène qui est nouveau. Je pense que dans tous les artistes de toutes les époques,
Elisa de Jacques
pouvait proposer ces deux discours en même temps dans leurs œuvres. On l'a vu par le passé, d'autres artistes. Et donc là, on est dans ce même type aussi de discours, où on a les deux à la fois, on peut s'émerveiller, se questionner à la fois. Je pense que c'est un peu le rôle aussi des artistes, de faire passer quelque part aussi des messages, non seulement avoir ce côté esthétique ou démonstratif, mais aussi questionner les gens, les rendre un petit peu acteurs aussi de la visite. Et je pense que voilà, c'est une manière pour les artistes de s'engager, et même chose pour le visiteur aussi, de faire évoluer la pensée, de faire bouger les choses, bouger les lignes.
Parce que ce n'est pas un mouvement, ce sont des micro-mouvements, ce sont des attitudes, et c'est ce que j'appelle des singularités plurielles. Ils nous sont aujourd'hui plus que jamais indispensables dans un temps de conformisme, oui, de contrôle.
L'arrivée du web aussi, qui a, je pense, fort fait changer et évoluer les choisses, et notamment avec le groupe Disnovation, on est vraiment dans un courant qu'on appelle le activisme, hack aussi pour hackers, donc tous ces gens qui piratent un petit peu les réseaux. Là, il y a encore quelque chose, une autre dimension qui est arrivée, et d'autres artistes avec d'autres propos qui sont vraiment assez intéressants et très interpellants sur la société actuellement, en fait. Donc ça, je trouve que c'est... disons que, voilà, là, moi, ça, c'est un art qui me... assez percutant, qui pose question et qui est intéressant, je trouve.
Oui, quels sont, à vos yeux, les dangers du numérique? C'est d'être partout, en tout lieu et en tout temps, suivi.
Non seulement ça, on a aussi beaucoup parlé, en fait, un des docteurs Honoris Causa de l'UCL cette année-ci aussi était extrêmement intéressant à ce niveau-là, et il avait parlé de ne plus avoir droit à l'oubli. en quelque sorte. Donc une fois que l'on publie un message sur Twitter ou bien qu'on rebondit sur une cause ou une thèse qui nous intéresse, etc., eh bien voilà, la vie évolue, les expériences évoluent, les rencontres font que l'on change, on peut changer d'avis, et en fait avec ce type maintenant de support, en fait on n'a plus droit à cet oubli, on n'a plus le droit de se tromper. En fait il faudrait qu'on le soit droit, intègre, parfait jusqu'au bout, et que les chemins de traverse que l'on a pris dans sa jeunesse ou même plus tard au cours de sa vie, et on se rend compte que c'était des voies sans issue pour soi, eh bien on peut changer de direction. Et là finalement avec cette espèce de toile qui nous emprisonne, et voilà, ce droit à l'oubli, en fait on l'a perdu, et c'est ça qui représente du danger pour moi.
On a des collections qui nous viennent de la préhistoire jusqu'à l'art moderne. Voilà, on est ici dans la salle dite de l'art moderne. Et par l'exposition temporaire, eh bien, on rentre dans de l'art contemporain qui cherche, qui expérimente, qui questionne, qui se dit dans ce cas-ci tout à fait et de manière assumée activiste. Donc ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Donc qui cherche vraiment à concerner ses contemporains.
Des images satellites, avec des images qui se déplacent très vite et qui s'arrêtent à tous des ronds-points de la ville de Paris. Et alors on voit, à chaque fois, on arrive, voilà, on a R113, donc c'est le 13e rond-point, et alors à chaque fois on fait un quasi 360 degrés et on repart dans une autre direction à la recherche d'un autre rond-point de la ville de Paris. Donc c'est assez, assez ludique, assez amusant, ça bouge beaucoup.
Elisa de Jacques.
Et tandis que dans l'autre tableau, mais c'est une œuvre qui communique. Là, ce sont aussi des images satellites, des images qu'on peut retrouver sur la toile, mais avec l'implémentation de toute série de gifs ou de petits émoticônes qui apparaissent et qui, quelque part, font vibrer l'image et la font bouger de manière un petit peu organique, comme ça. C'est assez ludique.
Donc ça, c'est aussi une des missions d'un musée universitaire, c'est-à-dire de développer un esprit critique.
Stranger Vision, et c'est en fait une espèce d'impression en 3D du visage d'une personne. Et c'est une artiste américaine qui, en fait, reprend dans les espaces publics des traces d'ADN, donc un vieux mégot, un chewing-gum trouvé par terre. Elle retrouve des informations génétiques sur les personnes qui ont laissé le mégot, qui ont laissé le chewing-gum, et donc elle recompose un visage à partir de ces données génétiques. Donc quand on parlait aussi un petit peu du danger, évidemment, c'est qu'on est fiché quelque part.
Tout n'est pas donné comme cela, on a vraiment à se positionner, et on le fait ici dans un langage artistique, avec des écritures numériques tout à fait originales et singulières.
Je croyais voir une peinture,
voilà.
Mais ce n'est pas ça.
Non. C'est donc bien une image, une image dynamique. Donc on l'est devant un tableau qui fait un peu penser à la dernière scène, des personnages qui sont figés. Alors c'est une famille qui se trouve attablée. Alors en fait on retrouve deux fois les mêmes personnages, sauf le personnage qui se trouve au milieu, qui est en fait un membre de la famille qui va se suicider. Et en fait, l'artiste ostendaise Alex Verhalst ici a quelque part, avec cette scène, voulu un petit peu montrer de nouveau les dérives que l'on a dans notre société avec tous les outils de communication que l'on a, Snapchat, WhatsApp, Instagram, Twitter, etc. Et en fait, on peut rentrer en interaction avec ce tableau. Ça, c'est intéressant. Donc, on peut composer un numéro de téléphone, et alors le personnage qui est tout à fait à l'extrême droite de l'écran va décrocher son téléphone, et cela va activer toute une série de dialogues. En fait, ce ne sont pas vraiment des dialogues, c'est toute la famille qui va plutôt faire des monologues. Ils ne vont pas vraiment communiquer ensemble. Et donc, bon, l'artiste n'a pas un avis précis sur tous ces outils de communication actuels, mais en tout cas, ici, on peut faire le constat que cette famille, malgré tous les outils de communication que la société nous propose, n'arrive pas à communiquer les uns envers les autres, et on arrive à des drames.
On parle beaucoup aujourd'hui de la question de l'intelligence artificielle. Cette notion traverse-t-elle l'exposition ? Cette notion traverse-t-elle l'exposition ?
C'est le cas notamment pour une des trois œuvres proposées par disnovation.org.
Il y a des conférences d'un cycle qu'on va inaugurer avec l'UCL Culture et Point Culture qui s'appelle « Penser les cultures numériques » qui pour nous sont trop impensées quelque part. Il y aura des workshops également qu'on a appelés avec des créateurs de jeux vidéo et d'autres qui vont arriver. Il y a le parcours géolocatif qui existe déjà à Rhizomatics avec une vingtaine de points dans la ville qu'on peut redécouvrir de manière interactive et sonore et littéraire, fait aussi avec des étudiants. Cet ancrage avec l'université, la participation des étudiants et bien sûr la participation de Nicolas Maigret, artiste en résidence, qui lui travaille avec les étudiants de l'UCL pour ces projets qu'on verra à la suite du festival, nous semble tout ça important. Je pense qu'il y a une cohérence là-dedans, il y a une conjonction de désir et aussi de montrer finalement des œuvres différenciées qui n'hésitent pas à prendre position sur une société qu'on pourrait dire une société peut-être qui va vers un contrôle global ou vers un conformisme total, et ces artistes sont en tout cas à l'opposé de cela.
Donc c'est notre première exposition temporaire, mais nous avons aussi vraiment la grande joie, en fait, d'avoir pu faire le point sur la fréquentation. Et notre exposition dite permanente, eh bien, elle a rassemblé et convoqué, on pourrait dire, 15 900 personnes depuis l'ouverture du musée. Donc c'est vraiment un très très beau chiffre. C'est au-delà de nos espérances. C'est aussi des publics que l'on connaît moins. C'est des visiteurs dits culturels, donc des groupes, des individuels. C'est beaucoup de formats aussi dans des journées famille. C'est des dimanches gratuits. C'est voilà, beaucoup de propositions qui ont été vraiment très très bien suivies par les publics. Et on va au-delà du Brabant wallon, donc on couvre l'ensemble de la Wallonie, au-delà de la frontière linguistique, on va un peu vers la France, on va vers la Hollande, voilà, l'Allemagne, c'est encore un petit peu timide. Voilà, donc on est très très content, voilà, de ces chiffres qui positionnent vraiment le muséel dans un paysage culturel dynamique, actif, et je pense évidemment que les expositions temporaires vont y contribuer largement. Merci.
Je suis responsable du service culturel de l'UCL, donc Frédéric Blondeau. Anne l'a évoqué à l'instant, donc cette exposition Écriture numérique s'inscrit dans le cadre de l'année thématique de l'université, donc année 2017-2018, qui porte sur les mondes numériques et s'inscrit également dans la saison culturelle de l'UCL sur le thème des empreintes digitales.
Au musée de Louvain-la-Neuve, écriture numérique jusqu'au 13 mai. Avec Anne Kéringent, Frédéric Blondiot, Philippe Franck, Nicolas Maigret, Maria Rokowska, Elisa de Jacquier.
Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais donc l'université, depuis une dizaine d'années, propose chaque année une saison culturelle thématique. Donc cette année, évidemment, dans le cadre de l'année Louvain des mondes numériques, on a essayé de proposer une saison culturelle avec une quarantaine d'événements axés fortement sur la culture numérique, sur les arts numériques, avec toute une série d'activités que nous avons portées en particulier avec un partenaire important qui est très présent aussi aujourd'hui, c'est Transculture, qui est un centre interdisciplinaire de culture numérique et qui sera représenté tout à l'heure par Jacques Urbanska et par Philippe Franck.
le panopticon, on n'en a plus besoin, puisque c'est ce que Deleuze disait, appelait ça les microfascismes. On est nous-mêmes, notre petit prisonnier et notre petit gendarme en même temps. Il n'y a plus besoin de nous surveiller. Et ça, je pense que c'est en train de se généraliser, peut-être malgré nous. Il est vraiment temps de prendre position. Ces artistes sans drapeau, encore une fois, le font de manière souvent poétique aussi. Et ça, ça nous intéresse aussi. Peut-être que la révolution de demain, c'est justement un peu de poésie et d'altérité.
Avec, me semble-t-il, dans cette exposition et dans ce cabinet, l'âme de Marcel Duchamp qui flotte.
Ah oui, décidément, encore une belle mémoire. En effet, je pense que Duchamp aussi, avec tout l'humour qu'il avait, bien sûr, le maître du conceptuel, l'ouvroir d'attitude dadaïste, et ce côté processuel aussi, le fait que ses œuvres, même si ici sont quand même des objets, c'est ça un cabinet aussi de singularité numérique, ce sont des objets, ce sont des dispositifs qui sont identifiables, si je puis dire, qui ne sont pas uniquement immatériels, loin de là, mais qui jouent avec l'immatériel, qui l'ont intégré dans leur culture. C'est pour ça qu'on parle souvent de post-numérique. Et c'est vrai que j'espère, en tout cas, que Duchamp aurait aimé ce mélange de poésie, de ludique, d'engagement sans drapeau, encore une fois, et d'une forme de dans un mélange d'engagement et de distanciation face à un monde beaucoup trop normatif et qui globalise aussi nos différences pour finalement les supprimer dans un rouleau compresseur de consommation techno-conquérant.
Écriture numérique. Par Thierry Genico. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.